Chers amis de Forum Opéra ou d'ailleurs, aujourd'hui est un très grand jour. J'ai l'honneur de recevoir une personnalité incontournable du paysage musical français. Chef d'orchestre, chef de chœur, pianiste, chanteur et même, à ses heures perdues, meneuse de revue, c'est un gars de Picardie qui fait aussi bien parler sa grand-mère que le jeune ou la jeune mariée. Adepte du bon mot, avide de découvertes dans tous les domaines possibles, il est un musicien hyperactif, aussi craint qu'adoré. À titre personnel, je fais partie de ceux qui l'adorent et ce que j'adore le plus chez lui, encore plus que ses chemises à motifs, c'est son franc-parler, d'autant plus précieux qu'il est rare, à l'heure où il est de bon ton de se réjouir de tout. Chers amis, je suis très heureuse de recevoir pour un court bavardage informel le seul, l'unique et le pas très chevelu, Hervé Niquet. Bonjour Hervé.
Bon bah tout est dit, je peux y aller alors.
Voilà. Comment allez-vous Hervé ?
Comme en pleine production, un peu fatigué, toujours aussi gourmand, avide, mais je fais mon âge quand même.
On se rapproche de... Mais vous ne faites pas votre âge. Je vois, vous êtes scorpion déjà. Alors ça, vous savez que je m'entends très très bien avec scorpion.
Bon, alors voilà une bonne chose.
Donc, on dit votre âge ou c'est une coquetterie, il ne faut pas le dire ?
Ouais, non, ça, je vais le dire là. Oui, on peut le dire. Je vais l'avoir dans quelques jours, là, 65 ans.
Oh là là.
Bah oui, dans 5 ans, je prépare mes 70 ans, pétard.
J'espère que vous m'inviterez surtout à l'anniversaire. Parce
on
que
verra.
Sinon, je vais faire...
on verra.
Alors, je dis que vous faites parler votre grand-mère parce que j'ai la chance de vous avoir un tout petit peu vu en dehors des concerts, etc. Et vous avez beaucoup cité votre grand-mère. Je peux vous dire, j'ai fait toutes les pages de Google possibles pour essayer de retrouver des citations de votre grand-mère. Je suis tombée à la 20e page sur un Hervé Niquet qui était kinésithérapeute à Condon dans le Gers, donc rien à voir. J'ai renoncé et je suis revenue. Donc j'ai dit, je vais vous demander qui est cette grand-mère géniale qui a des phrases pour toutes les situations possibles.
Alors, mon grand-père d'abord était grossiste en primeur. Il est mort quand j'avais 5 ans. Il avait un truc formidable qui m'avait quand même impressionné, c'est qu'il avait un œil de verre. Quand il recevait un représentant un peu emmerdeur, il l'invitait dans son bureau, il lui dit « asseyez-vous ». Et puis là, il retirait son œil de verre, il le posait face au représentant. Et puis il dit « alors, vous voulez me dire quoi ?» Pouf ! Et 2 minutes après, le type était parti. Donc, ma grand-mère a eu un mari quand même assez croquignolé. Ma grand-mère a vécu à la maison parce qu'elle était veuve très rapidement. Donc, j'ai été un peu élevée par ma grand-mère, une femme... Je pense que c'est la femme la plus laide que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Vous savez, les portraits d'Archimboldo avec le nez en patate et tout ça. Petite, boulotte, ardue au travail. Sa vie n'a pas été rose. Mais elle avait un bon mot pour tout. Elle cuisinait comme personne. C'est-à-dire, on rentrait de l'école ventre à terre pour savoir ce qu'on allait manger le midi. C'était une personne plutôt discrète, mais qui avait peur de rien. Tous les animaux avaient peur d'elle. Elle écrasait les guêpes à la main parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait rien à faire dans sa cuisine.
Et elle ne craignait pas les piqûres.
Rien du tout. Donc voilà, moi j'avais un peu une... comme les chats, les chiens et les guêpes, j'étais un peu effrayé par ma grand-mère, mais en même temps, elle nous faisait à manger tellement gentiment. Elle était adorable, elle était inquiète pour nous. Et puis, elle avait des phrases de bon sens. C'est la seule qui tenait tête un peu à mon père. Donc voilà, ça m'a bien plu. Alors, je mets un peu tout ce que j'ai besoin de dire à sauce de ma grand-mère, vous imaginez bien. Mais ça amuse toujours les gens, puis les gens n'osent pas répliquer parce que comme c'est mémé qui l'a dit...
Mais vous avez pris ça un petit peu d'elle, on peut dire, parce que vous en imposez quand même.
Ah bon ?
Je vous ai vu au pupitre, vous en imposez. Vous avez, justement, je parle du franc-parler, mais vous avez un charisme, vous avez effectivement toujours un bon mot aussi. Vous parlez beaucoup aussi de l'importance de l'humour, même pour tenir une répétition ou un enregistrement, tout ça. Est-ce que c'est d'elle que vous le tenez, finalement, ou est-ce que... Vous êtes construit autrement ?
Alors, ça, peut-être pas, mais non, ça, c'est de l'observation, l'humour en travail, parce que, vous savez, si on travaille... notre boulot est quand même très difficile, le musicien, en enregistrement encore pire, en répétition encore pire, c'est-à-dire on est 3 heures enfermés dans un studio entre 20 et 100 ou 150, là. On ne peut pas être tendu tout le temps, vous allez obtenir un son tendu, aigre, aigu. Donc, si vous faites rire un petit peu tous les 10 minutes avec un bon mot, vous voyez tout le monde qui se suroxygène, qui bouge un peu les fesses, voilà, on se détend et puis on recommence. Et le son s'aplatit un peu, il y a un peu plus de fondamental, voilà, ça devient bonhomme et puis vous pouvez faire un vrai son. Donc, c'est de la pédagogie.
Je vous reprends sur le son. Cet entretien totalement désorganisé, mais on s'en fout.
Oui.
Justement, ce qui a fait que je suis tombée amoureuse de vous, oula, c'est quand vous avez parlé, vous êtes le seul, je pense, en tout cas à ma connaissance, qui avait évoqué justement l'avantage d'avoir des voix très différentes les unes des autres et qui vont construire justement un son puissant et très, très soudé. Contrairement à d'autres chefs qui vont peut-être recruter des voix qui vont précisément s'emboîter les unes avec les autres, avec un peu le même format de timbre, etc. Vous vous dites, enfin, ce que j'avais entendu, c'était, mais on s'en fout que les voix sonnent différemment. Ce qui compte, c'est comment elles sonnent ensemble et en fabriquer une identité particulière.
Oui, j'ai pas d'autre mot que richesse. C'est-à-dire le spectre des intellects va être beaucoup plus large qu'une pensée unique. Hein. Ça me pose plus de questions. C'est-à-dire, il y a 100 personnes qui pensent la même chose parce qu'ils ont été formés par le même prof. Mon Dieu, quel ennui.
Mais ça vous stimule aussi, du coup, vous.
Ah ben, on est obligé d'être préparé autrement, quoi. Vraiment, quand fuse pas mal de questions, parce qu'ils ont tous des centres d'intérêt différents, ils ont tous des voix différentes, donc ils ont des problèmes différents, et même des atouts différents. Ben, vous avez un panier de fruits, mais alors, il y a tout dedans, quoi. Il n'y a pas qu'un panier de pommes. Donc voilà, moi, je trouve ça tellement plus riche, intellectuellement, sociologiquement, musicalement, et puis aussi physiquement, je parle acoustiquement. Voilà, il va falloir aller, si on parle de chanteur, puisque vous aimez ça, si vous avez des voix qui ne se ressemblent pas, on va devoir aller chercher l'osmose, l'harmonie, vraiment techniquement avec des harmoniques qu'on a tous dans les voix, mais qui ne sont pas placées pareil. Ben, le son qui va sortir de ça, c'est ça a des couilles.
Oui, ça, vous prêchez de convaincu. Voilà. Mais c'est justement, il y a quelque chose de plus inclusif. Au contraire, je trouve que de recruter que des voix un peu qui se ressemblent exclut justement toutes les richesses possibles autour. Mais c'est comme si ça correspondait aussi à votre caractère, en fait.
Ça, c'est rigolo parce que là, il y a un article qui vient de sortir sur moi. Et comment ça s'appelle? Un prélude, là. Un à propos d'un article, et il disait, et je me souviens, j'avais dit ça dans une conférence de presse, en fin de compte, faire de la musique, ce n'est qu'un alibi pour rencontrer les gens. Mais depuis la création de la musique, je veux dire, c'est un alibi, on s'assoit autour du feu, et puis on chante un truc, et puis peu importe qui est là, on le fait, et puis on rencontre les gens. Et s'il n'y avait pas ça, moi, je préfère avoir la partition, être chez moi, en chaussons, devant le feu de bois avec le chien, la tête sur ma cuisse, et lire la partition. Mais quel repos! Il n'y a pas de problème d'aller chercher du mécénat pour pas de subvention, pas de régisseur, pas de machin, et puis les trains et tout ça. C'est un tel merdier. Donc voilà, moi, si j'avais que ça à faire, je serais chez moi à lire la musique. Mais je ne rencontrerais personne. Du fait de faire tout ce merdier, je n'ai pas d'autres mots, hein. Tout ce bordel, vous rencontrez énormément de gens. Ils sont tous différents. Ben voilà, c'est assez enrichissant.
Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais vous avez été chef de chant à l'Opéra de Paris très tôt, très jeune, 23 ans.
Oh oui, il n'y a pas de saut métier. Hein.
Non, mais moi, je suis très impressionnée parce que ce n'est pas rien. Chef de chant, déjà, c'est un sacré boulot. Et à l'Opéra, d'ailleurs...
je vous ai coupé la chic.
Non. Mais après, les Arflots, 2 ans, bon, vite fait, pour rencontrer aussi, je pense, un vivier de chanteurs et d'instrumentistes. Et après, votre propre ensemble, où là, vous avez fait vos propres choix. Qu'est-ce qui a été le plus fructueux pour vous? Est-ce qu'à l'Opéra, vous avez pu nouer beaucoup de liens?
Ah bah oui, et puis j'ai appris mon métier. Hein. Quand je suis arrivé dans la maison, moi, je sortais de mon conservatoire. Alors, je venais à Paris pour toute autre chose. Hein. Je voulais être danseur classique. Bon, la danse y a gagné à ce que je m'arrête. Ça, c'est très clair. Mais en allant prendre mes cours de danse, donc j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai rencontré pas mal de gens dans les cours de danse, mais j'avais fait toutes mes études de piano, enfin j'avais eu vraiment de la chance d'étudier avec des gens très très forts. Et pour gagner, pour payer mes cours de danse, ben j'allais en ville, à Paris, accompagner les cours de danse des autres. Et de là, il y a des danseurs de l'opéra qui prenaient leurs cours, notamment Noël Lapontois, qui m'a repéré, qui m'a dit « Hervé, vous pourriez venir accompagner ma classe ». Et puis un jour, elle me dit, écoutez, demain, on n'a pas de pianiste à l'opéra, vous ne voulez pas venir remplacer? Ben, je lui dis, oui, mais moi, est-ce que je suis du niveau? Elle me dit, mais oui, tu t'improvises, tu connais la danse très bien, ben viens. Voilà, donc j'ai fait mon trou là-bas, et puis donc, ils ont fait un concours pour recruter. Alors, j'ai honte, mais ils ont fait un concours pour recruter. Bon, ça faisait 6 mois que je travaillais à l'opéra comme remplaçant. Moi, je m'amusais beaucoup. Et du coup, j'amusais beaucoup. C'était les cours du matin, hein, les cours de l'école de danse et les cours du ballet. Mais j'y allais la fleur au fusil parce que ça m'amusait. Moi, j'arrivais de ma cambrousse, quoi. Il faut imaginer que j'arrivais de ma cambrousse, de Abbeville, Amiens, j'avais rien vu d'autre. Et je me retrouvais à l'Opéra de Paris avec les plus grands danseurs du monde. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé avec Serge Guifard. Nourieff a été mon patron pendant plusieurs années. Donc j'y allais vraiment, vous savez, la classe du matin, c'est dur pour tous les danseurs, ils se sont couchés à 2h du matin après le spectacle, il faut les réveiller, il faut... Donc moi, je faisais le show, je rigolais, je chantais, je sifflais, je jouais faux, et ça mettait tout le monde en joie. Nourieff, un jour, vient à la classe, il dit « C'est qui ce dingue ?» C'est le régisseur général. Il me dit « Oh, excusez-moi, monsieur Nourieff, on va mettre quelqu'un... » Non, 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 je veux qu'il vienne parce que tout le monde a l'air content, et puis ça réveille tout le monde. Et donc, ils ont fait un concours. Il y a plus de 120 pianistes qui se sont présentés, et c'était juste pour moi. J'ai quasiment pas joué quoi concours parce que ça y est, mais il fallait que ça soit officiel quoi. Et j'ai fait cette année dans cette maison et c'est là que j'ai appris mon métier vraiment. Et puis donc vous pensez bien que moi je travaillais le matin jusqu'à 14 heures, mais j'y étais fourré toute la journée et toute la soirée. Là, je sortais de mon conservatoire et première production que j'ai faite, c'était avec Turandot, Montserrat Caballé, José Carreras, Seiji Ozawa. Et j'avais un malheur, ou plutôt un bonheur, j'étais le pianiste. Alors, il y avait un nombre de pianistes considérable, les accompagnateurs, les chefs de chant, ceux de l'orchestre. On était quand même plus de 20 pianistes dans la maison. Mais j'avais le malheur d'habiter le plus près de l'opéra. Donc dès qu'il y avait une merdouille, la régie téléphonait « Niki, vous êtes là ?»« Ben, oui, je suis là, si je réponds, c'est que je suis là. » »« Bon, alors descendez. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Vous verrez. Bon. » Et moi, je sortais de mon conservatoire quand même. Certes, je lisais n'importe quoi. Couché debout, avec ou sans lumière, j'y lisais n'importe quoi. Et la première répétition, j'avais 2 mois de maison officiellement. Je dis, ben, je vais où ? Ben, vous montez la salle Lifar. Vous inquiétez pas, c'est ping-pong-pong, c'est Turandot, c'est de la mise en scène. Bon, d'accord. Alors, je vais, puis je vois à côté du piano un petit monsieur japonais qui me dit bonjour, monsieur Ozawa, en pétard. Je ne connaissais pas la partition. Et j'ai fait 3 heures de répétition scénique avec lui et le metteur en scène. Le type, il connaissait toutes les lettres et tous les numéros de mesure de chaque partie. Je veux dire, ce type, c'est un génie, hein, Ozawa. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Donc, je peux vous dire que quand ça m'est arrivé, je me suis donné 1 an pour connaître tous les ouvrages Puccini, Verdi du répertoire, parce qu'on en faisait beaucoup à l'époque. Et puis, la même chose pour les ballets, les Tchaïkovski, les Delibes, les trucs. Donc, j'ai appris mon métier. Puis, on ne peut pas faillir, quoi.
Ah ben c'est non. Sûr, c'est pour ça que moi j'étais, puis 23 ans, enfin moi je trouve ça, enfin, la jeunesse et l'inconscience un petit peu aussi de là où vous mettiez les pieds, du fait aussi de vos origines.
Ah ben non, j'étais très conscient au contraire.
Ah oui.
Parce que moi quand j'étais petit, j'ai toujours voulu faire de la danse et puis vous êtes trop jeune pour ça, mais il y avait sur la chaîne de télévision française une fiction qui s'appelait Le Trésor des Hollandais, qui se passait à l'Opéra de Paris avec les petits rats de l'Opéra de Paris, avec Claude Bessy, Jean-Paul Bonnefou, des danseurs étoiles, Claire Motte. Et pour moi, c'était le Nirvana. Et 10 ans après, je me retrouve à l'Opéra de Paris, dans les mêmes endroits où ça avait été enregistré, en noir et blanc. J'avais 10 ans quand je regardais ça, hein. 10-12 ans. Et je me retrouve professeur de Claire Motte, sous la juridiction de Claude Bessy. Mais j'hallucinais.
Et qu'est-ce qu'elle a dit la grand-mère ce jour-là ?
Enfin... Oh ben, mémé, elle pleurait, mémé. J'ai pris des photos là-bas, mémé, elle pleurait, quoi. Évidemment. Donc voilà, c'était pas de l'inconscience. J'étais hyper conscient de l'endroit où j'étais, puis du niveau qu'il fallait avoir. Puis ça rigolait pas, quoi.
Et donc après, les arts flous ?
Alors ça, c'est une erreur. Je m'emmerdais sérieusement à l'opéra au bout de 7 ans. Je m'emmerdais vraiment. Parce que ça y est, j'ai fait le tout. En réalité, j'ai pas fait une note de musique, hein. Quand on est chef de chant, pianiste, c'est-à-dire on est le technicien qui va pallier à toutes les difficultés. Oui. On lit. Mais je n'ai pas eu une discussion musicale avec un chanteur, avec un chef. Parce qu'on est vraiment...
Là, vous étiez vraiment juste...
On est une bande-son extrêmement malléable qui doit savoir lire absolument tout. Donc voilà, à un moment, j'ai fait le tour de la question. J'ai rencontré les plus grands chefs, les plus grands solistes. J'étais pote avec Pavarotti. On mangeait des pâtes ensemble chez Tonio, le concierge, là, à Garnier. C'est la concierge.
Vous buviez du Lavazza ou pas ? On rien à voir avec...
Non.
Pardon.
Mais je m'ennuyais musicalement. Et alors, Bastille n'existait pas encore. On avait sous notre juridiction, en quelque sorte, Garnier et l'Opéra Comique, qui venait de passer dans le giron de l'État. Il y avait là le groupe de recherche chorégraphique, vous savez, Caroline Carlson, Jacques Garnier. C'était 12 de danseurs qui faisaient des programmes de recherche de danse contemporaine. Et voilà, j'allais accompagner là-bas parce que voilà, il fallait improviser, c'était compliqué, ça m'amusait bien. Et un jour, je vois en passant dans le couloir que les arts florissants, que je connaissais bien parce que j'allais à la classe de Bill dès que je pouvais au conservatoire, c'était un peu toujours caché un peu dans les couloirs à cette époque-là. J'avais vu qu'ils recrutaient des chanteurs pour un opéra baroque de Lully, Attis. Bon, ben, j'ai passé l'audition et j'ai été pris. Mais entre-temps, j'avais pris une demi-année sabbatique parce que Guylaine Tesmar et Pierre Lacote, qui avaient été nommés directeurs des nouveaux ballets de Monte-Carlo, que la princesse Caroline avait réouvert il y a 30 ans, parce que c'est un ballet historique hein, qui est mort et puis qui a revécu grâce à elle. Et le chorégraphe Pierre Lacote me dit « Écoutez Hervé, je vous entends souvent improviser à la classe et tout ça, vous n'auriez pas composé la musique d'un ballet. D'ailleurs, venez tout à l'heure, j'ai demandé à la princesse, j'aimerais bien qu'elle vous rencontre. » Je lui dis « Oui, mais Pierre, je n'ai pas dit oui. »« Si, si, vous allez dire oui. » Je lui dis « Oui, d'accord, bon, je vais rencontrer la princesse, mais c'est quand ça ? » ?»« C'est dans 6 mois. » Donc, j'ai rencontré la princesse, on s'est très bien entendu, on a le même âge exactement, on est resté un petit peu amis. Et elle me dit « Écoutez, il y a un livre de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Pierre et Guylaine sont d'accord pour faire et le rôle et la chorégraphie. Est-ce que vous voulez faire la musique ?» Je dis « Oui, je veux bien, mais dites-moi oui. » Je dis « Bon, je vais vous dire oui, parce que sans ça, mes mères auraient été fâchées, vraiment. » Parce que là, on tombait dans point de vue image du monde, mais carrément, oui, les deux pieds, les deux mains. Donc, j'ai pris un congé sans solde à l'opéra. J'ai eu 3 mois pour écrire la partition et 3 mois pour orchestrer. Il fallait livrer, vraiment, ça c'était au mois de février-mars. Il fallait que je livre la partition pour commencer les répétitions au mois de juin et l'orchestration à l'ouverture des ballets pour septembre. Donc voilà, c'était très vite et je ne suis jamais revenu à l'opéra. Donc j'ai pris ces 6 mois sabbatiques et puis après j'ai croisé les arts florissants en allant accompagner et puis j'ai passé l'audition et j'ai fait, ça m'a permis de manger, d'élever la famille et tout ça, en gagnant ma vie comme chanteur.
Et puis de rencontrer quand même une chanteuse, alors que moi que j'adore et que vous avez pas mal retrouvée, c'est Véronique Gens, du coup. Parce que...
La marraine de mon fils, vous voulez dire ?
Ah oh là là, d'accord.
Oui. On a grandi ensemble dans Atis. Moi, je n'étais pas étudiant au conservatoire, mais j'y allais souvent. Puis on a grandi ensemble, on est vraiment amis. Et encore maintenant, on a encore fait un disque de Massenet, là, récemment.
Qui est une splendeur absolue.
C'est elle qui est une splendeur, ça et Massenet. Donc voilà, on s'est jamais réellement quitté. Les aléas de la vie fait que souvent on se voyait pas pendant 1 an, 2 ans, et puis plouf, on retombait sur une production, et puis on prenait la discussion là où on l'avait quitté, mais on se connaît depuis, oulala.
Alors justement, parce que là vous avez beaucoup travaillé avec elle, vous avez travaillé avec beaucoup d'autres chanteuses aussi, alors on va dire de toutes celles que je vais énumérer, quelle est celle avec laquelle vous avez préféré travailler ? Donc il y a Véronique Gens, Sandrine Piau, Jody DeVos, ou je ne peux pas ne pas la citer, Aurore Tillac. Je ne vois pas pourquoi vous riez, par contre, c'est très, très vexant. Mais bon.
Surtout avec les dames, on ne va pas donner de préférence. Parce que sans ça, c'est des jalousies qui commencent. Oui,
c'était surtout pour la vanne, parce qu'évidemment, je ne me permettrai pas de vous mettre le cul entre deux chaises.
C'est des mondes différents. C'est des personnalités différentes et puis elles ont des affections pour des répertoires différents et puis elles ont des sociologies différentes quand elles sont avec tel ou tel ensemble. Donc voilà, c'est chaque fois, mais j'en reviens à mon idée première, c'est vraiment ce métier, c'est fait pour rencontrer les gens. Mmh. J'ai eu la chance d'en rencontrer des bons, j'en ai rencontré des cons aussi, hein.
C'est ce que m'avait dit aussi Véronique Gens. Et on s'est passé de citer les noms, mais ça serait tellement rigolo, mais je ne vais pas en rajouter. Mais effectivement, et là, vous vous sentez encore d'humeur à rencontrer encore de nouveaux gens ou vous commencez à vous dire, tiens, parce qu'on va parler aussi de Hervé Niquet et la cuisine et les saveurs et le trac de la bonne cuisson. Ça, c'est, je crois, un point que nous avons en commun. La cuisson, c'est fondamental et c'est bien plus important, effectivement, que les 5 minutes.
Surtout que c'est dangereux. Heureusement qu'on n'en fait pas notre métier, parce que quand vous avez un plat trop cuit, c'est pas comme au concert où vous avez fait un pain, mais pouf, ça passe. On peut servir quand même. Là, c'est une angoisse. Je pourrais pas être cuisinier. Je fais ça à la maison. Cela dit, pendant le Covid, j'ai ouvert un restaurant clandestin à Bruxelles. Ça, c'était très rigolo. D'ailleurs, Camille de Reille qui est venue dans mon restaurant.
Bon. Ça, je savais. C'est ton délinquant. Camille, si tu m'entends.
Rencontrer des gens, c'est vraiment vital. Alors, jusqu'à quand ça va durer, j'en sais rien. Il faut un peu d'énergie quand même.
Oui, non,
puis
ça,
je deviens vieux.
Mais arrêtez de dire ça. J'ai compté, ça fait au moins 15 ans que vous dites que vous devenez vieux. Donc,
Mais c'est vrai, c'est de plus en plus vrai.
Mais on passe tous par le même endroit.
Ah non, mais je suis ravi. Mais il y a des choix qu'il va falloir faire parce que c'est pour tenir une production, celle que j'ai fait avec toutes vos forces là, au mois de juin. Heureusement que je partais en vacances après. Je suis sorti dans un état, mais mon Dieu, c'est bon, c'était une grosse production.
Ah ça, oui, mais c'était énorme.
À 30 ans, on fait ça, la fleur au fusil, on va se baigner une fois, puis on repart le lendemain. Ah non, moi, je peux plus, là.
Mais il y a une fille du régiment qui nous attend en plus en avril.
Mon
là,
Dieu.
En Cap des Champs, on a hâte.
Oui. Ben voilà.
Justement, par rapport à l'âge, est-ce que vous considérez que vous vous bonifiez un petit peu? Parce qu'aussi, je trouve que les orchestres, même le choix des orchestres avec lesquels vous allez collaborer, il évolue aussi. C'est-à-dire qu'il ouvre, enfin, le spectre est encore plus large qu'avant, je trouve.
Ben, c'est surtout un retour au début. Comme je vous le contais, moi, je suis né à l'Opéra de Paris. Je veux dire, Montserrat Caballé, José Carreras, Seiji Ozawa, ça n'a rien vraiment de très baroque. Donc, moi, j'ai quand même trempé là-dedans. Dès la naissance, mon professeur de piano, c'était Marie-Cécile Morin, la copine de classe de Samson-François chez Marguerite Long. Étudier tout Ravel avec Ravel. Elle sortait sa partition pour me dire « Ravel avait noté ça ». Non, il pense à ça. Hein. Mets la pédale comme il m'a dit. Et là, mets un troisième parce qu'il préférait « Vas-y, bon. C'est ça qui m'a donné le goût des sources directes. Hein. Mais c'est ça ma culture. Donc, j'allais presque dire que le baroque, ça a été une incarté pendant 30 ans. Ça m'a bien plu parce que, justement, avec ce mouvement de recherche, on est retourné à la raison, le pourquoi, les fondamentaux, les sources, puis tout un bagage musicologique, organologique, scientifique, qu'on a un peu abandonné parce qu'on trouve que c'est condition acquise dans le répertoire moderne et contemporain. Mais là, grâce un peu au Palazzetto Brusané, ces 15 dernières années, je suis retourné un peu à mes premières amours, qui sont quand même la musique française.
Et vous avez ressorti des merveilles, d'ailleurs.
Oui, enfin ça, il faut rendre grâce à Alexandre Radvicki au Palazzetto Brusané. Moi, j'avais ça aussi dans mes cartons, parce que j'aurais fait de faire ça et je savais que je ne le ferais jamais. Pas de peau, je l'ai fait quand même. Bon. Mais le passage par la musique ancienne, c'est-à-dire le retour aux sources, m'a permis d'aborder tout ce répertoire d'une façon que je n'aurais pas pu obtenir, faire lorsque j'étais à l'Opéra de Paris, parce que je vous me parlais de ça, mais il y a 40 ans. Entre 40 ans et maintenant, regardez la différence des orchestres d'intermittents sur instruments d'époque.
Oui, mais c'est sûr. Mais même dans les orchestres symphoniques, c'est comme si votre propre parcours, même dans la recherche du son, avait évolué. Enfin, c'est pas, j'ai pas un avis de professionnel par rapport à ça. C'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois, l'orchestre s'épaissit de plus en plus. Alors, est-ce le choix des œuvres aussi, je sais pas, mais je trouve que ça...
Ben, je sais pas si c'est... Enfin, le son m'a toujours préoccupé et excité. C'est un vecteur d'émotions qu'on oublie bien souvent. Que juste, vous savez, quand vous allez voir une chanteuse, vous avez entendu parler de telle dame machin, là, donc vous payez un billet à 150 euros, puis vous allez voir dame machin faire un récital, vous ne savez pas ce qu'elle va chanter, vous ne l'avez jamais entendue, et vous êtes impressionné par les trois premières notes qu'elle sort de son gosier.
Ouais.
Le premier vecteur de l'émotion, c'est quand même le son. Après, on va coller autre chose, il y aura le texte, il y aura... Bon. Donc le son, pour moi, est vraiment primordial. Et que ça soit en musique ancienne, renaissance, baroque, que romantique ou même contemporain, je passe d'abord par là. Et je trouve que c'est un moyen sur lequel tout le monde est d'accord. Il faut travailler. Et moi, je vois bien avec tous les orchestres symphoniques, il y en a de plus en plus qui m'appellent un peu pour ça. Enfin, ils ne se reconnaissent pas trop quand je suis passé. Parce qu'il y a un souci d'abord de disposition dans l'orchestre que je demande qu'on change les habitudes, pas pour changer les habitudes, mais avec tout ce qui est imagerie, enfin pas imagerie, c'est un mauvais mot, mais tout ce qui est documentation de gravures ou de photos, 19e, 20e, on a des dispositions d'orchestre qui sont complètement différentes, mais qui étaient...
Organiques, en quelque sorte.
Oui, mais d'accord, pour les compositeurs qui étaient là, étaient d'accord pour ça. Donc voilà, moi j'essaye des choses, ça remet les gens en autre situation. Une autre oreille, une autre écoute, et le son change. Et puis aussi des questions stylistiques. Donc voilà, c'est un moyen de communication sur lequel beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens sont d'accord. Ça leur donne une place, non dans un outil de comme disent certains, c'est mon instrument. Non, non, moi, c'est pas des instruments. L'orchestre n'est pas un instrument d'un chef, mais c'est une assemblée de personnalités qu'il faut aller chercher les uns après les autres. Et le son, la fabrication du son en est une.
Et est-ce que c'est le son qui pourrait vous apporter le plus d'émotions?
Oui. Ah oh bah oui. Alors, on y colle plein de choses dans le son, mais Je reviens à la production qu'on a fait là avec l'orchestre de l'armée française, le chœur de l'armée française et la garde républicaine, dans le travail avec l'orchestre. Au fur et à mesure des services, les gens changeaient de posture, les gens changeaient d'oreille, il y avait un genre de fédération qui se passait parce que j'allais vraiment les chercher en leur disant là où il fallait aller. Et du coup, ils ont pris un plaisir à devenir, c'est pas péjoratif, mais à devenir intelligent parce qu'on cherche quelque chose et on veut surtout le trouver. Et donc, ça rend les gens excités et du coup excitants. Et ils sont ressortis de là, mais ils avaient tous rajeuni de 20 ans. Quoi. C'était très, très rigolo. Mais le son a été... Il y a eu des moments... On a fait un Berlioz, là, la chasse royale. Là. Quand on a fait à Versailles, je me souvenais de la première lecture qui a été un désastre, mais vraiment un désastre royal. Hein. Et le général et concert, et puis on l'a enregistré, mais ils étaient arc-boutés sur la fabrication du son et de l'harmonie et du rythme. C'était splendide de les voir, vraiment. Moi, j'admirais, hein, parce que c'est eux qui fabriquaient tout. Ils étaient heureux. Voilà, ça, c'est un vecteur d'humanisme vraiment important.
J'ai
cassé l'ambiance.
Ah, pas du tout, bon. Non. Je reviens sur justement les répertoires aussi que vous nous faites découvrir ou redécouvrir. Mais alors, moi, j'ai découvert, Fernand de la Tombelle. Qui connaît Fernand de la Tombelle à part Hervé Niquet et
Alexandre Radvicki, Palazzetto Brusané. Mais c'est un type important parce qu'on parle de pédagogie pour les publics actuellement. Ah, oui, ben lui, pour l'orchestre Colonne ou l'orchestre Padeloup, donc dans les années. Tout début 19e, eh ben, il a écrit des suites d'orchestres pédagogiques parce que l'orchestre faisait venir des trains entiers de provinciaux pour venir à Paris écouter de la musique. Eh ben, la Tombelle a écrit une suite, deux ou trois suites d'orchestres complètement compréhensibles, c'est-à-dire ben, il y avait le lever du soleil.
Il y a Aurore. Non, mais en plus, ça, c'est vraiment au hasard. Mais en...
et voilà. Et du coup, les gens comprenaient, c'était leur contexte, c'était leur quotidien. Ils n'en revenaient pas qu'ils pouvaient avoir de la musique sur leurs images quotidiennes. C'est des concerts pédagogiques formidables.
De la chanson du Furet au Pillé-Yaison, c'est très drôle.
Ben oui. Non, mais c'est
très bien écrit.
C'est un génie de la mélodie, génie de l'orchestration. Voilà, c'est un type formidable.
Et ben donc, vraiment, je pense que je ne suis pas la seule à vous remercier pour ça, parce que c'est des découvertes. Mais comme Alfred Brunon, moi, je suis... Plus j'écoute vos disques, plus je lis même des interviews de vous, plus je me rends compte que je suis complètement teubée et que je ne connais rien.
Alors, teubée, ça veut dire quoi?
Bête. C'est le verlan de bête.
Parce que moi, je suis vraiment démodée. Hein.
Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben là, c'est là qu'on peut dire que vous vieillissez, par exemple.
Ah ben ça, mais complètement. Et j'assume, je peux
Faudrait
vous dire.
Faudrait parler le langage de la street. Oh, ben faudrait faire un petit rap, un petit slam, petit quelque chose comme ça. Ouais. Non, on va juste reparler, pas de la cuisine tellement, mais sur le fait que vous aimez faire à manger. Alors déjà, je fais une petite, pour les gens qui nous écoutent, parce que ça, une des répétitions avec le chœur de l'armée française que vous avez faite, où vraiment, il y avait un extrait de Carmen, avec ta-da-da-da-da-da, abba, et vous avez dit, c'est une armée de bouchers qui défendent les abats. Bon voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours même quand même des références un peu à la bouffe. Vous avez parlé, même pour un festival dans le Périgord, de l'odeur de la confiture de mur, de vos vacances d'enfance, l'odeur de la cité de l'architecture, l'odeur du musée quand vous aviez 12 ans pour voir votre cousin à Paris, tout ça. Ça me fascine parce que ça, c'est très rare. On aime bien le fantasme du musicien qui aime bien bouffer, mais vous le faites vraiment. C'est pas juste des paroles. Qu'est-ce qui vous rend dingue dans le fait de faire à manger ou dans les odeurs ou dans le goût ?
C'est la même chose que la musique. Alors, c'est sûr que moi, j'adore me faire à manger quand je suis tout seul parce qu'on n'en peut plus. Là. L'année dernière, juste pour vous dire... Le mois d'octobre, j'ai dormi une seule fois deux jours dans le même lit. On n'a pas arrêté de bouger. Vous imaginez les restos qui vont avec et les machins, ou alors les tranches de jambon avec les carottes râpées. À un moment, c'est... Voilà. Donc, quand c'est possible, je me fais à manger, même pour moi tout seul. Je prends le temps. Ça me prend une heure et demie, mais je me fais à manger. Mais le top du top, c'est quand on fait à manger pour les potes ou pour la famille. Ou j'ai éduqué trois enfants qui adorent ça, évidemment. Quand tout le monde vient à la maison, ou à Marrakech, ou à Bruxelles, c'est à peine bonjour papa, c'est qu'est-ce qu'on mange. Voilà. C'est très important. Après, on vit.
Est-ce que vos chanteurs et vos musiciens, ils savent qu'il y a des gens qui ne vous disent même pas bonjour et qui vous demandent juste ce qu'il y a à bouffer
parce que... Bah oui, parce qu'ils font pareil. Non, mais c'est vraiment important aussi. Et puis, on a une vie tellement stressante, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que se mettre dans la cuisine, de commencer à faire bouillir l'eau, parer la viande, éplucher les légumes, et puis il y a tout qui commence à... Juste la couleur d'une soupe potimarron, lait de coco, fondu de poireau et carottes et des carottes, la couleur de tous ces oranges et verts qui pètent quand vous mettez le lait de coco, ça et l'odeur, mais... C'est une heure de boulot, mais c'est formidable.
Je suis convaincue, je suis.
Bon, ben voilà. Et ben l'harmonie d'un orchestre et d'un ensemble, c'est pareil.
Non,
c'est...
On est absolument d'accord. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez cuisiner? Qu'on sache, que la France sache ce que veut, ce qu'aime manger, ce qu'aime cuisiner Hervé Niquet.
Ben, les ragoûts. Alors, ça, mais ça, c'est ma grand-mère. Hein. Il pouvait y avoir des ragoûts qui allaient cuire pendant une journée, deux jours, quoi. Donc, c'est des odeurs qui naissent, mais tout doucement, de façon millimétrique, quoi. Ça commence... Et donc, faire un ragoût, c'est penser à ce qu'on va manger dans 3 jours, parce que c'est meilleur réchauffé, évidemment. La tête des gens, des amis, quand vous allez soulever la cocotte en fonte et tout le monde fait... alors ça, déjà, vous avez ça en ligne de mire. Et puis, c'est une école de patience, parce que ça doit être fait doucement. Moi, je suis un lent, hein, et le ragoût, ça me va bien. Alors, évidemment, je sais faire bien moult autre chose. Ou une tomate farcie. Tomate farcie, vous pouvez la faire que si vous avez un vieux bout de roast beef, du pain sec, ou de la vieille viande des repas des 2-3 jours avant. Et puis là, vous commencez. Et c'est long à faire une vraie tomate farcie.
Une vraie farce, vraiment, qui a du mais goût, oui.
Et moi, je ne mets pas de lait, je mets du lait de noisette, comme ça. Avec le pain grillé, c'est encore mieux. Non, enfin bon. On en parlera.
Mais oui, voilà pourquoi je suis amoureuse de vous. Bon. Alors justement, vous parlez du ragoût et même de votre grand-mère. Je fais juste une petite interruption rapide sur le festival de Saint-Riquier. J'ai adoré ce que vous avez dit sur ce festival. Bon, vraiment, vous étiez revenu un peu à la maison. Et il y avait donc toute la programmation aussi en picard, en français.
Ah bah oui.
Et en picard. Et vous avez chanté vous-même en plus aussi.
Ben oui, oui, oui. Alors, le Picard, on est en pleine Picardie quand même. Hein. C'est Abbeville dans la Somme. Il y a 20 000 habitants. C'est le trou du cul du monde quand même. Hein. Il se trouve qu'à quelques kilomètres, Charlemagne a fait bâtir une abbaye dont le père abbé a été, le prieur a été son fils. Et là, il y a un bâtiment extraordinaire dont les fondations sont de 7e siècle, 8e siècle. Il y a une abbatiale renaissance absolument formidable. Et donc, ce truc est au milieu. Le village de Saint-Riquier fait 1000 habitants, quoi. Donc, j'ai repris, on m'a proposé de reprendre le festival. J'ai observé qui était le public au bout d'un audit. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens très éduqués qui venaient d'Amiens, des Parisiens, des étrangers, mais beaucoup... Beaucoup de gens du coin d'Abbeville, de Alencourt, Teufle, Tchincourt, tous ces coins-là, de ce côté, et puis de Saint-Riquier. Et je me suis dit, mais il faut que ça soit aussi pour eux. Donc, j'ai un pote toujours, qui enseigne à l'université de Picard. Je lui dis, écoute, tu veux pas me traduire, je vais te faire un programme tous les soirs pour le lendemain. Tu vas tout me traduire en Picard. Et avant la mise du spectacle, c'est-à-dire on ferme les portes de l'abbatiale avant que tous les gens rentrent pour vérifier que tout est en place, etc. Bon, avec un autre pote, il y a deux portes. Tu vas présenter en picard le programme de le soir. Bon, il me dit, mais t'es sûr? Tu vas voir.
C'est génial.
Et alors, devant la porte, les portes fermées, il y avait donc entre certains soirs 400 à 800 personnes qui s'entendaient dire, expliquer en picard, uniquement en picard, le programme. Alors, il y avait la moitié des gens qui n'étaient pas picards qui hallucinaient. Et à partir de là, au moment où on ouvrait les portes, toucher picard, expliquer à toucher Parigot ce que ça voulait dire. Et puis, il y avait le programme où ils avaient d'un côté le programme en français et l'autre en picard. Ça mettait une ambiance dans la salle. Et tous mes picards, eh ben, ils étaient complètement décomplexés face à ça. Ça fait une ambiance.
Et juste, c'est pas comme une forme de dernier mot aussi vis-à-vis de ce milieu un peu parisien qui peut être un peu snob aussi.
Je m'en fous du snobisme et tout ça. Moi, je veux pas perdre de temps à parler de snobisme ou de machin. Les gens veulent vivre comme ça, vivent comme ça. Moi, j'ai des amis de 40 ans, là. Quand j'ai été nommé à Saint-Riquier, je leur dis, dites donc, les amis, vous faites quoi au mois de juillet parce qu'on m'a prêté le festival. T'as besoin d'un coup de main? Et en 10 minutes... Le téléphone arabe, eh ben, j'avais 45 vieux copains qui sont venus pendant les 5 ans que j'étais directeur là, me donner un coup de main pour les bénévoles. C'était formidable.
Ça vous a jamais affecté le snobisme parisien? Je suis une fille de paysan de mon Gers. Je sais que j'ai reçu, je m'en fous aussi un peu, mais je l'ai reçu. Et c'est vrai que de temps en temps, je pense que le petit clin d'œil, la petite connivence d'avoir eu le dernier mot sur quelques snobs me déplaît pas. Donc, vous n'avez jamais ressenti ça?
Je les emmerde.
Oui, en même temps, vous avez raison.
Je ne vois pas ce que ça va m'apporter de m'inquiéter de ce qu'on pense de moi. Et puis, c'est pas productif. Enfin, c'est pas. Je veux bien recevoir toutes les critiques, les conseils. Voilà. Si c'est constructif. Alors, moi, je réfléchis beaucoup. Je prends tout ça. Hein. Je parle pas des critiques musicaux, hein, qui sont, comme disait Sacha Guitry, les critiques, c'est comme les eunuques qui croient savoir ce qu'il faut faire, mais ils peuvent pas le faire. Bon. Et comme me disait un critique, mais tu sais, on fait les critiques pour les gens qui n'ont pas d'avis. Donc, voilà. Je parle pas de ça. Non, je parle des gens qui ont un avis et puis qui veulent. En parler, moi je suis preneur de tout. Mais le snobisme, je m'en fous.
Alors on va terminer sur une actu qui est propre aux auditeurs de Forum Opéra, qui vous concerne. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant de cette actu. En parlant de festival, vous allez diriger un tout nouveau festival qui vient d'être créé, pas très loin d'Angers, à Saint-Martin-du-Fouilloux, qui s'appelle Une cantate, une choucroute de la mer. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que j'ai cru comprendre que vous alliez avoir une prestation assez exceptionnelle.
Moi?
Dans ce festival. Mais donc non. Vous êtes le directeur que je viens de décréter sur ce festival.
Non mais c'est une blague.
Oui, c'est une blague.
Non, parce que tout près de là, je viens d'être nommé directeur d'un autre festival.
Ah, c'est vrai, oui, ça, je ne savais pas.
Alors là, je me dis, merde, mon conseil d'administration va râler. Non, j'ai été nommé directeur artistique du Festival de Saintes.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est pas très loin.
C'est un festival sérieux, en tout cas.
Bon, alors, vous disiez, votre festival, où j'ai été nommé.
Alors, une cantate, une choucroute de la mer. Alors, justement, quel est le principe de ce festival, un petit peu? Ça, c'est l'épreuve du feu. Sachez que Lucie Richardot a eu droit à une voix, une saucisse. Et Juliette, un trampoline pour en saumon. Donc, voilà.
Alors, l'intérêt de la choucroute, c'est qu'on peut y mettre, avec le chou, on peut y mettre ce qu'on veut. Alors, tous les soirs, ça sera différent, évidemment. Hein, un soir, vous aurez du jarret de porc, un autre soir, du poisson, un autre soir, de la saucisse, et pas n'importe laquelle. Hein. Et le quatrième soir, parce que je crois qu'il n'y a que quatre soirs.
Ça, c'est vrai, il n'y a que quatre soirs.
Voilà, le quatrième soir, ça sera un mets que j'apprécie particulièrement, c'est l'anguille. Voilà. Donc voilà.
Et une cantate différente avec une choucroute différente.
Mais absolument, il y aura une cantate autrichienne, une cantate alsacienne, une cantate strasbourgeoise, parce qu'il faut toujours un peu rester par là.
Absolument.
Et une cantate byzantine. Alors, je ne vous dis pas les auteurs, mais.
Non, mais je crois que Camille Derain va faire un des solos, je crois, de la cantate byzantine, oui. Si ma mémoire est bonne.
Voilà, fera le rôle du missionnaire des pamplemousses. Dans une cantate de Camille Saint-Saëns. Enfin bon, bref, je ne vais pas tout dévoiler.
Et l'orchestre, je crois que ce sera le Zob. Donc si j'ai...
Oh non, vous avez été chercher ça.
Pardon, mais
ça...
j'ai tellement kiffé. Pardon. Ah, on peut l'enlever si vous voulez.
Ah non, ça...
Mais on
non,
peut enlever le Zob si
ça,
vous voulez.
Ça, c'est un haut fait de gloire qui traîne encore dans les couloirs.
Mais c'est prodigieux. C'est prodigieux, ce Zob.
Du Quai d'Orsay, quand même.
Mais oui, mais j'ai vu ça. Je pleurais de rire, je vous dis.
Oui, des fois, je pourrais que je me taise, mais... Même l'ambassadeur de France en poste était jaloux de ne pas l'avoir fait.
Alors, ceux qui n'ont pas le dos, ça, j'aimerais bien que vous le racontiez, s'il vous plaît, pardon. Mais
alors, ça fait longtemps que je dirige un ensemble baroque croate qui est basé à Zagreb, dirigé par Laura Vajon. Et c'est un endroit, avec les moyens qu'ils ont, ils m'invitaient tous les ans pour amener 2-3 musiciens de chez moi et faire vraiment des productions baroques. Et puis voilà, puis ça a pris un peu d'allure. Et une année, elle me dit, écoute Hervé, tout ça en anglais évidemment, j'aimerais bien maintenant, il faut qu'on trouve un nom pour l'orchestre, est-ce que tu as une idée? Et moi, connement, je dis, oh oui, bien sûr, The Zagreb Orchestra Baroque. Évidemment, ça fait ses hommes. Bon, je pensais que c'était une plaisanterie. Bon, très bien. Et je m'en vais. Et l'année suivante, je reçois un contrat envoyé par l'ambassade de France, à l'Institut français, parce que c'était toujours eux qui m'aidaient à venir. Alors, un papier luxueux en tête de Harba, qui est H-R-B-A, qui est le nom croate, en croate, pour dire... Ouais. Je me dis, ah bon, tiens, c'est bien, ils ont pris un nouveau truc. Bon, je vais là-bas, je fais mon concert, je signe mon contrat, et il y a un petit pince-fesse après le premier concert, et l'ambassadeur de France était là, il me dit, dites donc, maestro, est-ce qu'on pourrait se voir 2 minutes? Je lui dis, bien sûr, excellence, alors dites-moi. Écoutez, monsieur maître, lorsque Madame Vajon est venue avec son nouveau papier en tête pour le contrat en tête du Zob, je ne sais pas que vous dire. J'ai, malgré toutes mes années de pratique diplomatique, ça a été très difficile de lui expliquer qu'on ne pouvait pas utiliser pour des artistes français le nom du Zob. Bref, je lui ai immédiatement proposé de refaire donc tout la charte graphique, les enveloppes, le papier en tête et aux frais de l'Institut français et de l'ambassade de France pour corriger cette erreur. Bon. Alors, cher maestro, vous imaginez donc la tête du trésorier du Quai d'Orsay lorsqu'il a vu une ligne budgétaire pour corriger les erreurs du Zob dans mon ambassade. Tout le monde a cru que j'organisais un festival de films porno. Bon. Mais cela dit, maestro, j'avoue une chose, c'est que je regrette vraiment que ça soit pas moi qui ai fait cette plaisanterie.
C'est prodigieux, non mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit je ne peux pas ne pas l'évoquer pendant ce bavardage informel. Le temps passe très très vite et c'est déjà même la fin. Je pense qu'on peut terminer sur ce zob, je pense que sans aucun complexe, c'était un bonheur en tout cas de passer ce temps-là avec vous Hervé.
Eh bien merci.
Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et j'aurais moi à titre personnel très grand plaisir à vous retrouver pour d'autres productions. On n'a pas du tout parlé après de votre vraie actu. Il y a donc des disques qui sortent, qui sont sortis, qui vont ressortir.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et puis, il y a les productions, surtout au château de Versailles, avec la reprise du roi Arthur, la flûte enchantée en français, la caravane du Caire de Grétry. Il y a Médée de Charpentier qu'on va faire au théâtre des Champs-Élysées. Et puis, je dois faire aussi les noces de Figaro au Capitole de Toulouse. Et puis, la fille du régiment avec le cœur de l'armée française.
En tout cas, merci beaucoup, Hervé. Et on espère vous revoir très, très bientôt sur Forum Opéra.
Eh bien, merci, Aurore.